Europe 1, présidentielle 2022.
L'invité de la matinale.
8h33, Valérie Pécresse, la candidate des Républicains à l'élection présidentielle et l'invité du rendez-vous de la présidentielle avec Sonia Mabrouk. Mathieu Bock-Côté nous a rejoint. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
À vous l'honneur.
Alors, Madame Pécresse, vous disiez il y a quelques instants que vous n'aviez pas changé fondamentalement. Mais votre conseiller principal, Patrick Stefanini, disait mercredi dernier à Paris Première que vous n'étiez plus la même femme, que depuis votre prise de responsabilité à la région Île-de-France, vous aviez fait la découverte des questions régaliennes, vous étiez métamorphosée, que vous n'étiez plus la même Valérie Pécresse.
Oui, mais ça date d'il y a 6 ans.
Oui, j'ai bien compris, mais tel est le cas. Après ces 6 ans, de quelle manière avez-vous changé au contact de la région Île-de-France? De quelle manière les fonctions que vous avez exercées vous ont transformé?
D'abord parce que cette région, c'est la plus marquée par la violence, la montée de la violence, la plus marquée par la montée du séparatisme, et aussi la plus marquée par les inégalités. C'est une région qui est à la fois très riche et très pauvre. Et donc, la gérer pendant 6 ans, ça m'a rendue meilleure. Voilà, on peut le dire comme ça. J'ai appris d'abord qu'effectivement, il fallait qu'on s'engage pour la sécurité, que tout le monde devait s'engager, que la sécurité, c'était une chaîne, et que au niveau régional, mais au niveau municipal, au niveau des forces de l'ordre, au niveau de la justice, au niveau de l'école, tout le monde avait une mission qui était celle de remettre les figures d'autorité au cœur et la règle de droit au cœur de la société. Donc oui, je me suis engagée très puissamment sur la sécurité, concrètement depuis que je suis présidente de région. Pareil sur la laïcité, pareil contre le séparatisme. Vous savez que j'ai mis le siège de ma région en Seine-Saint-Denis pour être au cœur des défis de la France de demain. Et c'est là que j'ai élaboré ma théorie plafond anti-ghetto. Pas plus de 30% de logements sociaux par quartier. On détruit les quartiers qui sont aujourd'hui des quartiers d'enfermement et on a une politique de peuplement. Tout ça, je l'ai construit. Toute ma doctrine politique, je l'ai construit dans ces 6 dernières années à la tête de la région.
Alors, justement, vous avez parlé de laïcité, plusieurs parlent d'identité. En 2018, les Républicains de Laurent Wauquiez avaient lancé un tract qui avait connu un certain écho. C'était, je le cite, qu'il fallait que la France reste la France. Cette formule est aujourd'hui reprise par un de vos concurrents à droite, Éric Zemmour. Est-ce que Laurent Wauquiez avait raison avant le temps? Est-ce que certains gars, est-ce que la France aujourd'hui risque de ne plus être la France?
Alors, moi, par rapport à Éric Zemmour,
Laurent Wauquiez.
Oui, mais
et Éric Ciotti.
À l'époque, je faisais partie des Républicains. Non, le sujet aujourd'hui, c'est que moi, je crois que pour que la France reste elle-même, il faut que tout change. Et je pense que c'est la différence sans doute la plus flagrante entre moi et Éric Zemmour. Éric Zemmour est nostalgique d'une France du passé qui n'est plus. C'est la France en noir et blanc, c'est la France de l'ORTF, il va chez les agriculteurs, il nous parle du béret et des sabots. Vous voyez, moi, je ne crois pas ça. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut répondre aux défis de la France, qu'elle reste elle-même, c'est-à-dire au premier rang économique, une grande puissance, qu'elle garde ses valeurs, ses traditions, ses modes de vie, qu'elle défende ses valeurs universelles, mais tout ça en répondant aux défis du 21e siècle. C'est-à-dire que moi, je veux une droite contemporaine. Je veux une droite qui relève le défi de l'écologie. Je veux une droite qui relève le défi de l'égalité homme-femme, du numérique, voyez, de la reconstruction de la ville, du monde post-Covid aussi. Parce que le monde post-Covid ne sera pas le même que celui de l'avant-Covid. Il y a une nouvelle aspiration à des nouveaux modes de vie.
Alors, juste dans l'Express, tout récemment, dans un entretien avec Nicolas Bouzou, je crois, vous nous dites, je cite, « Les minorités ne doivent pas imposer leur dictature à la majorité. » La phrase est ferme, mais auriez-vous un exemple en tête de cette dictature des minorités par rapport à la majorité?
C'est simple. Moi, ce que je crois, c'est que prenons Noël. Voilà. Prenons Noël. Moi, je pense que aujourd'hui, on doit pouvoir dire joyeux Noël. Noël, c'est une fête française. Noël, c'est plus une fête catholique. C'est une fête qui appartient à la majorité des Français. Et donc, nous dire qu'il faut se souhaiter un joyeux hiver ou des joyeuses vacances, voilà.
Je vais vous donner quelques autres exemples, peut-être. L'écriture inclusive. Pour vous, est-ce que c'est un signe justement de ça?
L'écriture inclusive, c'est très simple. Je l'ai interdite à la région.
Parce que quand je suis arrivée,
Monsieur Bock-Côté, à la présidence de la région, mon prédécesseur avait généralisé l'usage de l'écriture inclusive dans les documents administratifs régionaux. Je ne comprenais pas ce que je lisais. Pour moi, l'écriture inclusive exclut. Elle exclut parce que c'est déjà... Moi, je veux faire du français une grande cause. Aujourd'hui, vous avez un illettrisme qui... Alors, c'est pas de l'illettrisme total, mais vous avez un nombre de jeunes qui n'arrivent pas, quand ils viennent aux journées d'appel à la défense, à déchiffrer le texte qu'on leur donne, qui est énorme. Les chiffres officiels, c'est 12%. Mais la vérité, c'est que j'ai des retours de personnes qui accueillent ces jeunes aux journées d'appel à la défense, qui me disent que dans certaines journées, c'est 20 à 25% des jeunes qui n'arrivent pas à déchiffrer le texte.
Valérie
Donc
Pécresse.
Moi, je veux faire du français une grande cause et pas de l'écrit. Et j'interdirai l'écriture inclusive.
Valérie Pécresse, loin, très loin de l'écriture inclusive. Vous voulez panthéoniser Molière. Le gouvernement s'y refuse, arguant que le Panthéon est un temple laïque, enfant de la patrie républicaine, elle-même engendrée par les Lumières. Ainsi, toutes les figures qui y sont honorées sont postérieures aux Lumières et à la Révolution. Est-ce que cet argument, il est recevable pour vous ?
D'abord, l'histoire de France ne commence pas à la Révolution. Et Molière, est-ce qu'on peut imaginer plus défenseur de l'esprit français que Molière ? C'est le premier qui a dénoncé justement les inégalités femmes-hommes, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire en réalité la soumission des femmes dans l'école des femmes. Les inégalités sociales dans les fourberies de Scapin. La tartufferie. C'est lui qui le premier a mis à jour par le rire. C'est tellement français, par le rire, par la satire.
Mais alors pourquoi tous les mots de la l'exécutif France. refuse cette panthéonisation qui n'a rien de polémique, si on vous
écoutez,
entend.
Si, parce que je pense qu'il y a, dans une certaine gauche, et je pense qu'Emmanuel Macron est issu de cette gauche-là, il y a le sentiment qu'effectivement, la France des grands hommes démarre en 1789. D'ailleurs, pas vraiment en 1789, parce que Voltaire et Rousseau, ça date d'avant.
Alors, vous référez justement à la gauche, polémique à gauche, que je vous inviterai à commenter. Fabien Roussel disait tout récemment, vous en avez entendu parler probablement, un bon vin, un bon fromage, une bonne viande, il a été très attaqué autour de ça. Est-ce que Fabien Roussel, du Parti communiste, est aujourd'hui un défenseur de l'identité française ?
Mais c'est typiquement un très bon exemple de la minorité qui doit être respectée si elle fait des choix alimentaires différents, qui ne peut pas imposer sa loi à la majorité. Quand des véganes attaquent des boucheries, c'est un scandale. Je veux dire, aujourd'hui, nous avons une tradition culinaire, c'est un patrimoine mondial à l'UNESCO. On est libre de manger de tout. Voilà, c'est la France. Et la France est une patrie de la liberté. Donc, bien sûr, si certains ne veulent pas manger de viande, ils sont libres, mais ils ne sont pas libres d'imposer leur loi à la majorité.
Mais la question de l'identité française transcende.
Et puis alors, moi, j'adore le fromage et je suis en train de me battre pour qu'on essaye de modifier le Nutri-Score. Vous savez, le Nutri-Score, si on l'applique au fromage, à 100 grammes de fromage, on aura une désincitation à en manger. Donc je propose qu'on fasse le Nutri-Score à la portion. Parce qu'à part moi, il y a très peu de gens qui mangent 100 grammes de fromage d'affilée.
Mais vous comprendrez le sens de la question. La question de l'identité française, aujourd'hui, ce n'est pas le monopole de la droite. C'est peut-être manifestement, elle réapparaît à gauche.
Bien entendu.
Et je vous pose la question. Est-ce qu'à certains égards, vous auriez plus de sympathie, vu cette déclaration, vu ce que représente Fabien Roussel à gauche, auriez-vous plus de sympathie pour lui que pour vos deux concurrents à droite sur la question identitaire ?
Mais aujourd'hui, vous savez, je pense qu'il y a le clivage droite-gauche, bien sûr. Et je pense que c'est un clivage structurant pour la société française.
Il
et de ce point de vue, je pense qu'En Marche n'existe pas. En Marche, c'est un comité, c'est quoi ? C'est un comité de soutien du président de la République. Il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas d'idée. On ne sait pas où ils vont. C'est un président zigzag, celui que nous avons. Un jour, il soutient les forces de l'ordre. Le lendemain, il les accuse de violences policières. Vous voyez, donc, on a un président totalement zigzag, sans vérité, en réalité. Vous m'avez posé la question de savoir quelle était ma vérité. Ma vérité, elle est très claire. Moi, je suis de droite, j'ai toujours été de droite. Une droite assumée, une droite ouverte, sociale et une droite forte. Bon, quelle est la vérité du président de la République ?
Pourquoi ? On ne la connaît pas. Attendez, là, vous lui faites un procès en insincérité. Pourquoi ne porterait-il pas avec autant de conviction de vous et de ferveur ses convictions politiques, sa droite et sa gauche et Emmanuel Macron ?
Justement, et ça ne marche pas. L'autorité, ça ne se choisit pas à moitié. La bonne gestion des deniers publics avec l'idée de rendre aux Français l'argent qu'ils ont gagné, ça ne se choisit pas à moitié. Ça ne se choisit pas en mettant 2800 milliards de dettes et une épée de Damoclès sur les générations futures. Vous voyez, on a l'écologie, ça ne se choisit pas à moitié. Le nucléaire non plus, ça ne se choisit pas à moitié.
On va marquer une très courte pause, Valérie Pécresse. Vous avez parlé de la polémique du candidat Roussel sur le racisme supposé de l'entrecôte. Ce sujet-là mettait aussi en évidence une question importante, l'alimentation, et derrière elle, le pouvoir d'achat. Je vous propose qu'on embraye sur les thèmes économiques dans un instant. 8h42 sur Europe 1.